Et on s'en va à Maria en Gaspésie, où l'automne se pointe déjà un petit peu le bout de la feuille. C'est ce que me racontait Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
La luminosité change, hein, chez vous, ben, comme partout ailleurs, mais peut-être que c'est plus remarquable en Gaspésie.
Oui, oui la lumière, c'est pas aux mêmes heures, là, le matin et le soir.
Ouais.
Quand je vais en Montérégie, je vois la différence. Et puis, ben, on n'a pas le choix, c'est ça. On tourne la page vers le mois de septembre.
Eh oui, tourne la page, comme dirait l'autre. Alors, Et le chant reste beau, c'est un livre qui nous invite peut-être à tourner la page jusqu'à un certain point.
Oui, tout à fait. C'est un petit livre, c'est pas très long, 152 pages, aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal, dans la collection Les Salicaires. C'est une première publication pour Sarah Garneau, qui est une femme qui, je crois, est native de Québec, et puis qui a exercé comme métier, finalement, de s'occuper des êtres vulnérables. Puis, son mari, son amoureux, tu vois, son conjoint, s'est enlevé la vie, et à partir de là, elle s'est mise à écrire un journal de deuil. Et des années plus tard, avec ses études à l'université, elle a repris ce texte-là pour le retravailler et en faire un manuscrit qui vient de paraître il y a peut-être 2 semaines, là. C'est tout récent. Et le chant reste beau. Moi, quand j'en parlais, j'avais toujours tendance à le dire au futur. Et le chant restera beau.
Ouais.
Comme si je voyais l'après, mais en fait, c'est au présent. Et c'est une citation d'un texte de Rilke. Alors, on comprend à la toute fin pourquoi ce titre-là est là. C'est finalement l'espèce de résilience de toute cette démarche qu'elle va faire. Ce texte-là, c'est une autofiction sous forme de récit, donc dans lequel elle s'est permis, bien sûr, de jouer et d'ajouter des choses. Ça prend parfois l'allure d'un essai parce qu'il est question beaucoup de littérature, de philosophie, des lectures qu'elle a faites. Et puis parfois, ça prend la forme d'un dialogue parce que l'amoureux qui s'est enlevé la vie, bien, elle lui parle au-dessus, même s'il est absent. À travers les lectures, à travers les lettres, à travers les souvenirs, elle va chercher des réponses à la manière d'une enquête pour comprendre. Et c'est toujours ce qui se passe dans un décès par suicide. C'est pas comme quelqu'un qui fait une crise de cœur ou quelqu'un qui a un cancer. C'est quelque chose de soudain. Et puis souvent, il n'y a pas beaucoup d'indices, mais on cherche pourquoi la personne en est arrivée là. Alors, la narratrice ne nomme jamais cet homme-là, elle ne se nomme pas elle non plus. Et elle a un fils qu'elle a eu avec une autre personne. Il partage la garde, c'est un jeune enfant, il a peut-être 10 ans. Puis, face à cet amoureux qui vient de s'enlever la vie, elle va le laisser avec son père pour pouvoir se remettre de ce drame, de ce deuil qui est très long. Alors, on sent un malaise à la première page de ce livre où elle dit « Je te touche sans t'atteindre ». Comme si un voile nous séparait. Plus loin, elle va dire « Mes tentatives de te comprendre et de te plaire m'exténuent. » Donc, son amoureux, on comprend qu'il est en dépression profonde et puis qu'elle essaie là-dedans de ramifier tout ça et c'est très lourd. Elle prend ça sur ses épaules et lui ne semble pas vouloir ou ne voit pas d'issue et va finalement organiser son suicide alors qu'elle s'en va visiter une amie. Elle a une amie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps aux États-Unis, et puis elle lui dit « Une semaine, chacun de notre côté nous fera du bien. Tu seras heureuse de revoir Rosemary. Ne m'écris pas, d'accord? Profite pleinement de ton voyage pour penser à toi. » Donc, afin de ne pas s'inquiéter puis envoyer des courriels, il lui dit de ne pas s'écrire, de prendre cette semaine-là, puis elle ne vit pas 24 heures sur 24 avec cet homme-là, puis il y a toutes sortes de petits caprices auxquels elle se plie, donc elle se dit « Oui, pourquoi pas? » Et lui, pendant ce temps-là, prépare la fin de ses jours, c'est-à-dire qu'il va y écrire une lettre, il prépare un colis avec des œuvres littéraires et philosophiques qui va lui être livrées plus tard. Et puis lui, dans sa poche de manteau, il va écrire un petit mot comme quoi il ne faut pas l'aviser, son amoureuse, avant qu'elle soit de retour. Donc tout est planifié, tout est organisé depuis un bon moment. Puis ça, elle va s'en rendre compte quand elle va faire une recherche sur son ordinateur, parce qu'elle va voir l'historique sur les manières de suicider, ce qu'il faut faire avant de se suicider. Donc, ça faisait longtemps qu'il y pensait. Donc, elle s'en va chez son amie aux États-Unis, mais quand même un peu inquiète. Puis, elle reçoit un courriel d'un ami qui lui dit « As-tu eu de ses nouvelles? » Et là, elle va apprendre qu'il s'est suicidé. Donc, elle va revenir. Elle reçoit la boîte de livres, la lettre, elle essaie de comprendre. Dans toute cette peine, cette vulnérabilité, elle va se retirer dans un monastère, puis elle va écrire pendant des semaines. Et là, elle lui écrit au-tu à cet homme. Dans cette profonde quête, elle cherche des réponses et elle va en trouver finalement dans les livres qu'il lui fait lire de force, parce que c'est lui qui lui envoie ces livres-là. Mais elle a toute la culpabilité des survivants, des questions sans réponse, de toutes les choses qu'elle aurait voulu lui dire, qu'elle aurait peut-être dû lui dire, mais surtout de l'impuissance que l'on a devant la douleur des êtres qui nous entourent. Et je la cite, « Je n'ai rien pu faire contre ton départ, alors je t'écris. Je t'écris comme on court, comme on crie, comme on creuse des sillons sur son corps. J'écoute l'écho de ta voix me parler de choses invisibles. » Et plus loin, elle dit, « J'écris pour nettoyer les taches de ton départ. » À plusieurs reprises, comme ça, elle justifie sa démarche. Elle explique ce qu'elle veut faire, puis elle nous explique que finalement, elle doit tout défaire la relation, comme détricoter tout ça, pour comprendre la souffrance qui était trop lourde pour lui. Et quand la souffrance est trop lourde, on ne voit plus d'issue. Et c'est ce qui fait qu'il a choisi de s'enlever la vie. Ce texte, évidemment, est truffé de citations, de références à Hermann Hesse, Nietzsche, Antonin Artaud, Thoreau, Camus, etc., tous les livres qu'il lui a laissés. Et lui-même, le héros, le narrateur, mais son amoureux, avait publié un livre à compte d'auteur, en quelques exemplaires qu'il lui laisse. Et quand elle le lit, qu'elle cite des extraits, il est question de lui, de sa vie, de ses lectures, et tout nous apparaît prémonitoire. Il y avait un grand mal de vivre chez cet homme-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, qu'on soit vivant ou pas, on peut voir que nos bibliothèques parlent de nous. D'abord, le choix des livres qu'on garde et qu'on ne donne pas après la lecture, les passages qu'on souligne, les petits traits qu'on fait dans la marge, les petits signets qu'on met, les pages qu'on plie, c'est un témoin du lecteur. Ben oui, puis ça dit, ah, regardons. Puis quand on lit les livres de quelqu'un qui est mort puis qui nous les a laissés, ben on les lit avec toutes sortes de questions, puis on recherche, ah, ben oui, pourquoi il a souligné ça? Bon, voilà. Ah, ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que comment ils se sont connus, ces deux-là, c'est dans une librairie. Elle travaillait dans un café en face d'une librairie de livres usagés. Elle traversait pour aller chercher des livres, demander des suggestions, et c'est lui qui lui faisait des suggestions. Puis lui devait aller prendre un café aussi de l'autre côté. Et c'est comme ça, à travers les livres, qu'ils se sont connus et qu'ils ont vécu toute leur vie dans ce monde littéraire. Donc, ça nous permet de comprendre comment la fiction, la philosophie, la littérature, la poésie les habitent. Et puis, c'est aussi intéressant que cette femme qui est l'autrice, dans la vie, elle a choisi, après le suicide de son conjoint, d'aller étudier en littérature. Et puis là, elle prépare maintenant un doctorat. Et puis, il est question finalement de la représentation du fleuve Saint-Laurent dans les œuvres narratives féminines contemporaines du Québec. Et le fleuve est souvent, les rivières, les cours d'eau sont souvent dans le texte, partout, la poésie, la nature aussi. Alors, c'est sûrement le prochain livre qu'elle va faire. Ensuite, je vais vous donner un exemple du maritime, de l'image de l'eau. Elle a un fils qui s'appelle Samuel. Elle dit, Samuel est parti à l'école. Quand il est là, je rame à contre-courant pour rejoindre le rivage. Je me laisse guider par son visage. Dès qu'il referme la porte, une rafale de souvenirs m'entraîne au large. Comme quoi, elle perd le contrôle. C'est comme si l'enfant qui est là lui permet de rester dans le réel. C'est important parce que l'enfant, lui, il a des besoins immédiats, puis à un moment donné, il est capable de revenir dans le concret. Mais elle, pour l'enfant, elle va faire des gros sacrifices, mais dès qu'il part, là, ça y est, l'anxiété se met de la partie, puis elle a du mal à contrôler ses émotions. Alors, on comprend aussi au fil de ses lectures que le suicide, moi, j'ai toujours pensé que ça prenait bien du courage pour se suicider, mais non, c'est pas non plus de la lâcheté, mais c'est une grande souffrance qui fait qu'on ne voit pas de lumière au bout. Alors, on tombe dans le désespoir. Et puis, avec le temps, avec l'écriture, avec son fils, il va se former là une espèce de paix au fil de plusieurs années. Et on comprend que finalement, son livre est une réaction à tout ça, mais qui n'est pas sombre. C'est quelque chose de lumineux, qui fait place à la beauté de la nature, à la lumière, au vivant. Et c'est une forme de résilience, finalement, de faire de ce drame-là un texte positif, qui s'adresse à l'absent, qui répondra jamais, mais qui peut, je pense, aider beaucoup de gens qui vivent des choses semblables. On connaît tous quelqu'un qui s'est enlevé la vie, puis on a malheureusement des statistiques très sombres au Québec là-dessus, surtout chez les hommes. Alors moi, j'ai trouvé là, pas une sympathie, mais une manière de comprendre qu'il n'y a pas à accuser personne là-dedans. C'est comme ça, puis il ne faut pas faire de la culpabilité, puis dire j'aurais donc dû, mais c'est comme ça, puis on n'y peut rien. C'est une maladie qui s'empare d'un être humain qui ne peut plus contrôler ses émotions et qui voit la seule solution, c'est de quitter. Mais comment vivent tous ceux qui survivent? C'est ça, le drame qui est dans ce livre-là. Et c'est fort bien écrit, fort intéressant. Et puis même si c'est un sujet sombre, ça peut aider plein de gens qui sont dans un deuil, peu importe le type de deuil, c'est ça. Voilà.
Et Le chant reste beau, c'est un livre publié aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal dans la collection Les Salicaires, signé par Sarah Garneau. Et je vous donne un numéro très simple à retenir. C'est la ligne d'aide en cas de crise de suicide 988-988. Merci beaucoup, Anne-Marie.
À la semaine prochaine. Au revoir.